L'idée, c'est que tout au début, voilà, avant qu'on commence sur le culte, on allait essayer les paroles, si on peut les avoir, ce sera super. Si on ne peut pas les avoir, je vais vous le dire simplement ce qu'on va faire pour cette deuxième strophe. On le chante.
Apprends-nous à te révéler, à mieux t'obéir.
Voilà la première petit changement. Je ne sais pas si on peut avoir les paroles du deuxième strophe. C'est trois chants avant la fin. Parle-nous. Et le strophe, c'est apprends-nous à te révérer, à mieux t'obéir. Super, merci beaucoup. Alors, il s'agit du deuxième ligne. À mieux t'obéir, à nous humilier. Donc, on rajoute une note qu'on n'a pas eue dans la première strophe. On va faire maintenant de. Et puis, tout à la fin, ta vérité chasse l'incrédulité et un syllabe de moins par rapport au premier et troisième strophe. Du coup, je trouve que c'est plus facile de faire ta vérité chasse l'incrédulité. Sinon, ce que je constate, c'est que tout le monde fait ta vérité. Ta vérité chasse l'incrédulité. Ah, on est arrivé à la fin. Et ça arrive chaque fois, c'est normal, parce que c'est difficile. Donc on va faire ta vérité chasse l'incrédulité. Voilà, c'est un tout petit pépin avec les traductions parfois. On va faire donc cette deuxième strophe. Apprends-nous à te révéler, à mieux t'obéir, à nous. Ta pureté vient sonder, Seigneur, nos voix, nos pensées. Fais grandir la foi et que nos yeux voient ton amour sublime, ton autorité. Tes paroles toujours s'accomplissent, ta vérité chasse. Vous êtes de super élèves. Merci beaucoup. Je laisse la place à Johan. Johan pour le.
Bonjour à tous. Bonjour les enfants. Alors, on va commencer par les annonces pour vous faire croire qu'en fait, vous avez déjà une heure de retard. Oui. Les enfants, non, c'est pas là que tu vas entendre quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait super bien lire? Toi, tu sais super bien lire. Toi aussi? Bon, j'ai deux lecteurs, c'est vraiment super sympa parce que moi, j'ai pas envie de faire les annonces ce matin, donc vous venez là, les deux. Ah, t'as peur, ok. Bon, alors, tu me lis le premier point ici?
Celui-là?
Oui, celui-ci.
Dimanche 3 avril à. C'est quoi ça?
10 h.
10 h. Culte avec Anne. Ça. Catherine. Piguet. Et il sera. Suivi par une un repas communautaire.
Voilà, merci. Alors.
Mardi 5 avril à 14 h 30, le fil d'argent sera sur un projet médical du SME au Bangladesh.
Il y en a un autre qui veut faire. Non. C'est pas amusant, en fait, hein, c'est ça. C'est amusant ? Bon, alors, dimanche 10 avril, donc dimanche prochain. Non, pas dimanche prochain, parce que dimanche prochain, c'est, vous avez compris, c'est Anne-Catherine Piguet avec le repas communautaire. Dimanche 10 avril à 10h, célébration œcuménique des rameaux au CEPOM. Vous savez ce que c'est, les rameaux ? Non ? Ben, vous le saurez plus tard, parce qu'en fait, c'est le thème d'aujourd'hui pour les potes. C'est pas des chameaux. Non, les rameaux, c'est pas des chameaux. Et le CEPOM, vous savez ce que c'est le CEPOM ? C'est les pommes, c'est là où on fait du jus. C'est à Versoix, chez nos amis Cérex. Non, CEPOM, c'est à Mérin, c'est au centre de Mérin. C'est un centre œcuménique. Oui, ça peut être célèbre, une pomme, ouais, exactement. Donc, du coup, il n'y aura pas de culte ici le 10 avril. Ensuite, autour de Pâques, vous connaissez, on en a aussi un peu rappelé au colloque vendredi. Donc, vendredi 15 à 18h, l'office à la Croix. Samedi 16 avril, journée de témoignage à Mérin. Dimanche 17 avril, le culte de Pâques, ici, en famille. Samedi 23 avril, alors là on peut peut-être afficher le concert Adonia. Vous avez des flyers à disposition. C'est la grande tête de lion sur l'histoire de Daniel. Daniel, oui. Comment ?
Daniela.
Daniela. D'accord. C'est à ? Tu veux la voir ? Ah non, c'est pas le lion qui s'appelle Daniel. Tu connais l'histoire de Daniel ? Toi, tu connais ? C'est le lion Daniel ? Non. Daniel, c'est quelqu'un qui a vu des lions de très près. Ouais, très très près. Et il était avec les lions dans la cage. Si.
Fermez la bouche.
Tu peux répéter ?
Le Seigneur a fermé la bouche.
C'est le Seigneur qui a fermé la bouche des lions ? Ouais, c'est juste. Bravo. Merci au moniteur pour le bon travail qu'il a fait. Ah bah attends, lis ce qu'il y a dessus, c'est encore mieux. Ouais, vas-y.
C'est quoi ça, quelle heure ?
19h.
Donc le spectacle de Daniel à Donia à 19h à Mérin. Ensuite, quelques petites annonces pour le groupe nettoyage. Ça a été rappelé encore au colloque. Donc le bâtiment est nettoyé par les membres et permet de faire de grandes économies. Il y a besoin de renforts, donc n'hésitez pas à vous inscrire soit auprès de Claire-Lise, soit auprès du conseil ou des pasteurs pour venir soutenir les groupes actuels. Et puis finalement, les dons. Vous savez que l'Église vit uniquement des dons des membres. Et vous avez l'occasion à la sortie de faire une offrande ou par Twint ou via CCP. Et puis les pasteurs sont toujours à disposition en semaine ou à la fin du culte pour des moments de prière ou de temps d'écoute. Et puis juste un petit retour sur le colloque qui a eu lieu vendredi. donc le colloque qui est l'assemblée générale finalement de l'Église, où on a pu approuver les comptes 2021 avec un bel excédent. Donc la situation de l'Église financièrement est saine. Voilà, merci beaucoup.
Le Seigneur nous accueille ce matin dans sa maison. Ce Jésus est déjà présent avec nous ce matin parce qu'il a dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Nous voulons nous réjouir alors de sa personne, de sa présence, mais également de sa fidélité. Le psalmiste nous invite à venir crier notre joie en l'honneur de l'Éternel. Dans le psaume 95, l'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les cimes des montagnes sont aussi à lui. À lui appartient la mer. C'est lui qui l'a faite. À lui est le continent. Ses mains l'ont formée.
Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Acclamons notre rocher, car il est notre sauveur.
Acclamer tous ensemble avec les paroles de psaume 95. Ce matin, répondons à son appel avec des paroles.
Venez et prosternons-nous, ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés.
Il est notre Dieu,
et nous sommes le peuple de son pâturage,
le troupeau que sa main conduit.
« prosternons.
De différentes manières. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux. »
Jésus est la parole, médiateur entre Dieu et l'homme, et l'Épître aux Hébreux parle de lui comme notre grand prêtre, et c'est grâce à lui que nous avons accès à Dieu, que nous avons la liberté de nous approcher de lui. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermes, attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché.
Approchons-nous donc du trône de Dieu avec de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment.
Jesus.
acclamons-le ce matin par des courtes prières. Joanne va passer avec le micro. Et puis, donc, acclamons ce Jésus qui est la lumière. Que chacun se sente libre à prier. Et puis donc, Joanne va passer avec le micro pour aider ceux qui sont à la maison de pouvoir aussi entendre nos prières. Seigneur, merci que nous avons le privilège d'entrer dans ta présence grâce à ce que tu as fait pour nous, que nous sommes libres grâce à Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous.
Nous reconnaissons que le Christ est sur le trône, qu'il règne, et que ce trône est un trône de grâce, accessible pour chacun, pour chacune d'entre nous. Et Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Alors, nous nous présentons devant toi avec reconnaissance, avec confiance, et en te disant que nous avons besoin de toi. Amen.
Seigneur, merci. Et toi, tu es le roi des rois, tu es ressuscité, tu as vaincu la mort. Et quoi qu'il arrive, Seigneur, avec toi, nous avons la victoire. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus. Amen.
Seigneur, ce que tu as fait pour nous nous montre à quel point tu nous aimes. Et en retour, nous aimerions aussi t'aimer, mais surtout aussi t'obéir. Et pour ça, nous avons tant besoin de ta grâce. Alors merci parce que tu es fidèle. Loué sois-tu, béni sois-tu, dans le nom de Jésus. Amen.
Oui, Père, merci parce que tu nous rejoins. Ce n'est pas à nous à grimper vers toi, mais c'est toi qui nous rejoins là où nous sommes. Et c'est vrai, Seigneur, que c'est une victoire sur nous-mêmes aussi, que toi, tu nous rejoignes. Alors, Seigneur Jésus, nous voulons crier victoire, Seigneur, et accueillir cette vie nouvelle que tu donnes à chacun d'entre nous. Et Seigneur, merci pour ce cadeau, merci pour cette grâce qui nous permet de nous approcher de toi, et avec ton amour, Seigneur, que nous pouvons partager aussi. Alors que nous puissions être ces canaux, Seigneur, qui distribuons cet amour, cet immense amour que tu as pour l'humanité, pour chaque homme, chaque femme. Seigneur, que nous puissions être ces canaux, que nous puissions transpirer ton amour pour chacun que nous entourons. Amen.
Merci Seigneur pour ta présence avec nous. Merci aussi de bénir les enfants parce qu'ils vont sortir à l'école du dimanche, soit également avec leur moniteur. Tu leur donnes la patience, la clarité aussi, Seigneur, que tu suscites l'intérêt dans le cœur de nos enfants, de nos jeunes, à te chercher, à te connaître. Que ton nom soit glorifié aussi dans chacune de leurs vies. Au nom de Jésus. Amen. J'invite donc les enfants à sortir à l'école de dimanche. Nous sommes tous les jours confrontés aux infos, si on les regarde, si on les écoute bien sûr, On est tous au courant de ce qui se passe dans l'Ukraine. Je me demande ce qui serait leur chant aujourd'hui, leur lecture, dans des endroits où ils peuvent encore se réunir, dans les grandes villes, telles que Lviv ou Kiev. J'aimerais vous inviter à prier avec moi pour eux, et je vais me servir du psaume 46, parce que c'est vrai qu'il y a, pour Dieu, il n'y a pas de décalage entre ce qu'il est et puis aussi ce qu'il veut faire dans le monde. Il n'est pas un Dieu distant. Il est compatissant, nous le dit, nous le disons. Prions en pensant à nos frères et sœurs en Ukraine aujourd'hui. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Seigneur, pour beaucoup aujourd'hui en Ukraine, c'est ce qui se passe. Le monde semble tomber sur eux. Que tu sois leur rempart, que tu sois leur refuge. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent, des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit, la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel, des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Seigneur, que ceux qui te connaissent soient conscients aujourd'hui de ta présence, de ta protection avec eux pendant cette journée. Sois avec tous ceux qui ont perdu des proches, sont éloignés de du reste de leur famille. Venez contempler tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il a brisé, il a rompu la lance, il a consumé au feu tous les chars de guerre. Seigneur, interviens, que cette guerre puisse se terminer, Seigneur. Arrêtez, dit-il. Reconnaissez-moi pour Dieu, je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous, et l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Seigneur, sois leur citadelle aujourd'hui. Qu'ils puissent arrêter et reconnaître que tu es Dieu. Travaille dans le cœur aussi, Seigneur, de ceux qui ont envahi. Qu'ils puissent aussi s'arrêter et savoir que tu es Dieu. que Philippe vienne pour apporter la prédication, nous voulons justement demander à Dieu de nous parler. Parfois, nous courons tellement à droite et à gauche que nous ne prenons pas le temps ni du silence pour l'écouter. Et donc, on veut être à l'écoute de Dieu, à sa parole ce matin. Et donc, je vous invite à vous lever, à prier ces paroles. Parle-nous, nous venons à toi, recevoir le pain, ta parole sainte. Modelez nos cœurs à ta ressemblance et que ta lumière aujourd'hui rayonne par l'amour et la foi que nous manifestons. Parle-nous, accomplis Seigneur tes projets en nous pour ta gloire.
À chacun, à chacune. Daniel, dans la fosse au lion. C'est certainement l'une des histoires les plus célèbres de la Bible. Puis en plus, elle se finit bien. Cet événement se produit peu après la chute de Babylone, conquise par les Perses, en 539 avant Jésus-Christ. Épisode que nous avons évoqué il y a seulement quelques semaines, vous vous en souvenez peut-être, quand Dieu siffle la fin de la récréation. Et dans le chapitre 6 que nous allons méditer en partie ce matin, nous retrouvons Daniel. Mais à ce moment-là, Daniel, il est âgé de 80 ans. Même s'il a été mis sur la touche depuis une vingtaine d'années, juste après la mort de Nabucodonosor, eh bien Daniel reprend du service. Et il va prouver, Daniel, qu'il est encore un grand commis de l'État, expérimenté, plein de vivacité d'esprit pour remplir des hautes fonctions ministérielles. Et de son côté, Darius le Mède est âgé de 62 ans quand il prend le pouvoir à Babylone. À 62 ans, Darius le Mède, ce n'est pas vraiment un novice en politique. Et ses toutes premières décisions prouvent qu'il a des idées claires sur la façon de bien administrer son royaume. Nous allons écouter la lecture de Daniel 6, 1 à 16.
Darius le Mède accéda à la royauté à l'âge de 62 ans. Darius décida de créer 120 postes de satrapes pour les placer dans tout le royaume. Il nomma à leur tête trois surintendants à qui les satrapes devraient rendre compte de telle manière que personne ne nuise aux intérêts du roi. Daniel était l'un d'entre eux. Il surpassait les autres surintendants et tous les satrapes par l'esprit exceptionnel qu'il avait en lui, si bien que le roi projetait de lui confier la responsabilité du royaume tout entier. Alors, les autres surintendants et les satrapes cherchèrent à prendre Daniel en faute dans les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune faute ni aucun manquement, car il était parfaitement honnête. Aucune négligence ni manquement ne purent lui être reprochés. Ces hommes se dirent donc :
Nous n'aurons aucun motif pour accuser Daniel, à moins de trouver quelque chose en relation avec la loi de son Dieu.
Sans tarder, les surintendants et les satrapes se rendirent chez le roi et lui dirent
« Darius, au roi, vis pour toujours. » Les surintendants du royaume, les préfets, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs conseillent au roi de publier un décret et de préciser l'interdiction suivante. Durant une période de 30 jours, toute personne qui adressera une prière à un dieu ou à un être humain autre que le roi lui-même, sera jeté dans la fosse aux lions. Que le roi publie l'interdiction et signe cet acte, de telle sorte que nul ne le modifie, conformément à la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable.
Là-dessus, le roi Darius signa l'acte et l'interdiction. Lorsque Daniel apprit qu'un tel acte avait été signé, il regagnait sa maison. À l'étage supérieur, il ouvrit les fenêtres orientées vers Jérusalem. C'est là que, trois fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer Dieu. Il le fit comme d'habitude. Ses adversaires se précipitèrent et le trouvèrent en train de prier et d'implorer son Dieu. Ils se rendirent donc chez le roi et lui dirent à propos de l'interdiction royale :
N'as-tu pas signé une interdiction prévoyant que, durant une période de 30 jours, toute personne qui adresserait une prière à un dieu ou à un être humain autre que le roi lui-même serait jetée dans la fosse aux lions?
La chose est certaine,
répondit le roi,
conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable.
Eh bien,
reprirent ces hommes en présence du roi,
Daniel, l'un des exilés du pays de Juda, n'a de respect ni pour toi, le roi, ni pour l'interdiction que tu as signée. Trois fois par jour, il prie son Dieu.
Lorsque le roi entendit ces paroles, il en fut très attristé. Il se mit en tête de sauver Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha un moyen de les délivrer. Mais les adversaires de Daniel se précipitèrent à nouveau chez le roi et lui dirent :
Le roi sait bien que selon la loi des Mèdes et des Perses, toute interdiction ou décret publié par le roi est irrévocable.
Alors, sur un ordre du roi, on amena Daniel et on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi s'adressa à Daniel en ces termes.
Ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, c'est lui qui te sauvera.
Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, merci. Darius, roi de Babylone, veut donc organiser au mieux la gestion de son royaume, la Babylonie. Il décide, Darius, que son pouvoir s'exercera par l'intermédiaire d'une solide administration locale, certainement pour être mieux compris, mieux accepté par la population du pays conquis. Si Darius s'y prend maladroitement, il risque de provoquer des rébellions, toujours difficiles à réprimer par les forces armées. Darius sait que le maintien de l'ordre peut coûter très cher, en argent et en vie humaine. Et donc, qu'un gouvernement prudent doit préserver dans toute la mesure du possible la paix publique. Il sait ça. Il trouve donc une solution sage. Il délègue une partie de ses pouvoirs à 120 satrapes, sorte de gouverneur babylonien d'origine. Les satrapes connaissent bien le peuple, ils connaissent bien la langue, et chacun d'entre eux se retrouve en charge d'une ville ou d'une province, d'une région, pour l'administrer d'une manière proche du peuple, en tenant compte des réalités locales. C'est quelque chose d'habile, et sans aucun doute, d'après le verset 2, c'est dans l'intérêt de l'Empire. Et de leur côté, ces 120 satrapes doivent rendre compte à 3 ministres proches de Darius. Daniel est l'un de ces 3 ministres d'État avec de larges pouvoirs de supervision. Et voici donc que Daniel revient sur le devant de la scène après avoir vécu une sorte de pré-retraite. Ainsi, au début du règne de Darius le Mède, le nom de Daniel ressort comme un possible ministrable. Et c'est vrai que cet octogénaire, Daniel, a récemment frappé les esprits lors du banquet de Belshazzar. On se souvient de Daniel invité dans la salle du banquet de Belshazzar pour donner la signification des 4 mots écrits sur un mur par une main surnaturel. Mene, mene, tekel, parsin. Il a parlé au roi avec une redoutable fermeté, Daniel, lui annonçant alors le jugement divin contre lui. À cause de son entêtement orgueilleux, Belshazzar allait mourir cette nuit-là suite à la prise de Babylone par l'armée de Cyrus le Perse. Les détails de ces événements, parce que c'était un événement, ces détails sont certainement arrivés aux oreilles de Darius. Il s'est informé sur l'histoire peu banale de Daniel le sage. Et il a appris qu'il s'agissait d'un exilé juif arrivé 65 ans plus tôt en Chaldée, alors qu'il était adolescent. Instruit dans la langue et les sciences chaldéennes, Daniel a gravi les échelons du pouvoir dans l'administration du pays. Nabuchodonosor a vanté ses mérites et l'a même promu chef des sages de Babylone. Alors Darius, qui à son tour maintenant doit dénicher des hommes dignes de confiance, des ministrables capables de gérer l'État de façon efficace, de façon honnête, comprend qu'il a besoin d'un tel ministre dans son gouvernement.
il profitera de son expérience, de ses talents, de son intégrité. Il sort donc Daniel, l'octogénaire, de sa retraite pour lui confier de grandes responsabilités que Daniel accepte. Peu de temps après, le voyant à l'œuvre, Darius veut faire de Daniel son premier ministre. C'est donc que Darius savait reconnaître un bon ministre, sachant que son action aurait un impact positif sur la marche de l'État, et ce qui n'est pas négligeable, un aspect positif sur la popularité du souverain régnant, lui. Ici en Suisse, élire des conseillers fédéraux, toujours une décision délicate. Les très bons candidats, les très bonnes candidates sont relativement rares. Il faut qu'ils soient honnêtes, compétents, travailleurs, capables de collaborer intelligemment avec les six autres, dans un esprit de collégialité, à la recherche de compromis qui vont servir le bien du pays. Par ailleurs, l'exercice du pouvoir donne à ceux qui l'exercent des occasions d'en tirer éventuellement un profit personnel ou pour servir les intérêts privés de leurs proches, de leurs amis politiques. Ça n'arrive pas souvent en Suisse. Quelques très rares cas ont fait en leur temps la une des journaux. Mais ailleurs dans le monde, c'est parfois un sport très répandu. On entend parler dans de nombreux pays de corruption, d'abus de biens sociaux parmi les classes dirigeantes de la société. La corruption, c'est une plaie qui engendre de grandes misères partout où elle sévit dans le monde. Dans notre pays, je suis convaincu, la grande majorité des hommes et des femmes en poste d'autorité sont honnêtes. Soyons-en très reconnaissants et prions pour eux, prions pour elles. Je reviens à Babylone. Malgré le bon vouloir du roi, la situation était tout à l'opposé de la droiture. Daniel, lui, c'est un îlot d'honnêteté au milieu d'un océan de corruption. Voilà ce ministre intègre, qui cherche le bien du pays et qui gêne les autres administrateurs mis en place par Darius. Ils sont jaloux de la faveur que le roi accorde à Daniel. Et s'il devient leur premier ministre, ça va être l'horreur pour eux. Il est bien trop droit, Daniel, bien trop intègre. Ils complotent donc contre lui pour l'éliminer. Ils veulent pouvoir magouiller en paix. Et Daniel est l'empêcheur de magouiller tranquille. Comment l'éliminer? Comment l'éloigner des allées du pouvoir et des livres de comptes trafiqués? Daniel n'a-t-il pas une faille? Tous les hommes en ont une, n'est-ce pas? Un défaut, un vice caché, un prix. Il doit bien avoir un prix, Daniel. Cependant, même en cherchant bien dans sa vie privée et dans son travail, Daniel est irréprochable. Daniel 6, verset 5. Alors, les autres surintendants et les satrapes cherchèrent à prendre Daniel en faute dans les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune faute ni aucun manquement, car il était parfaitement honnête. Aucune négligence ni manquement ne purent lui être reprochés. Pas de faille, pas de prix. Reste alors une piste. Et c'est la piste religieuse. Et c'est la plus prometteuse. Verset 6. Ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre Daniel, à moins d'en trouver un en relation avec la loi de son Dieu. La piste religieuse. Les conspirateurs ont au moins discerné que chez Daniel, la foi et l'intégrité morale et professionnelle sont étroitement liées. La foi et l'intégrité personnelle et professionnelle sont étroitement liées. Et pour un chrétien, pour une chrétienne, c'est toujours le cas. La foi et l'intégrité personnelle et professionnelle sont liées. Depuis tout jeune, Daniel est honnête parce qu'il est fidèle à Dieu. À Babylone, c'est connu par ceux qui l'ont côtoyé dans les allées du pouvoir. C'est ça qui a impressionné Nabucodonosor. Et le témoignage de Daniel et de ses trois amis a donné à ce roi l'envie de connaître le Dieu qui faisait de ses hommes des jeunes gens de valeur, sages, courageux et utiles pour le royaume. Utiles ! Leur foi était leur force et leur raison d'être. Des hommes droits, sages, efficaces dans leur travail. Et 65 ans plus tard, cela fait toujours de Daniel un empêcheur d'embrouille, un ennemi de la morale élastique. Pour lui, pour Daniel, le mal est mal et le bien, bien. C'est là une position trop rigide pour ceux qui préfèrent une morale à géométrie variable. Il faut donc placer Daniel devant un choix difficile, un choix qui mette en conflit sa fidélité envers Dieu et sa fidélité envers le roi et ses charges ministérielles. Ne nous y trompons pas, c'est un test qui reste difficile pour les chrétiens et les chrétiennes que nous sommes. Quand notre foi en Dieu et en sa parole entre en conflit avec l'exercice de notre métier, avec notre fidélité à notre patrie ou à notre famille, ou quand on nous demande, par exemple, de participer à quelque chose de méchant, quelque chose de malhonnête, quelque chose d'injuste, ou simplement quelque chose de contraire à la vie juste que Dieu demande. Cela devient alors une situation pénible et risquée, car il faut clairement choisir entre deux fidélités. Jusque-là, elles ont pu cohabiter. Mais soudain, elles deviennent impossibles à gérer ensemble. C'est soit l'une, soit l'autre. Et la décision peut coûter cher. Perdre son emploi. Ou sa vie. Dans le cas de Daniel. Pour les nouveaux convertis à Jésus-Christ, dans le monde musulman, pour les convertis à Jésus-Christ aujourd'hui, actuellement, en Russie par exemple, le risque est le même que celui que Daniel affrontait. Le choix de suivre Jésus conduit à de grands risques pour leur vie. Si leur façon de parler et d'agir est contraire aux vœux de leur famille ou des autorités religieuses ou politiques en place, de grands risques pour leur vie. La mission Porte Ouverte parle souvent de ce genre de situation déchirante pour les chrétiens en terre d'islam. Comment bien vivre sa foi en Christ face aux exigences de l'État, du califat, face à des familles hostiles à l'Évangile? Voilà un vieux problème. Les comploteurs savent bien que le choix de Daniel ira certainement vers la fidélité envers Dieu. Et cela causera sa perte. Et franchement, le piège est imparable. Daniel est perdu. Et c'est sa foi qui le perdra. Ses ennemis prendront sa place et ils seront libres de gérer à leur guise les biens du royaume en toute impunité. Le complot est habilement conçu. Que de fois l'intelligence humaine sert à organiser des coups tordus et des injustices flagrantes, et parfois dans l'Église même. Et quelle belle unanimité parmi les satrapes pour planifier tout ça en secret. Ils demandent alors une audience au roi. Le roi fait partie intégrante de leur plan. Ils espèrent que sa vanité de roi l'empêchera de voir sous les flatteries qu'ils vont lui distiller, le coup tordu qui vise Daniel, son fidèle ministre. Les rois, les empereurs, mais aussi les présidents ou même les grands patrons aiment qu'on leur fasse la cour, qu'on les flatte, qu'on leur attribue une autorité et un pouvoir qu'ils n'ont pourtant pas. Et c'est vrai que la flatterie a quelque chose d'enivrant. Si le pouvoir corrompt, les flatteries aveuglent. Les flatteurs sont parfois nos pires ennemis. Leurs intentions sont rarement pures. Jean de La Fontaine, dans sa délicieuse fable du corbeau et du renard, l'a bien démontré, hein ? Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Hé, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ce bois. » Ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, que l'on ne l'y prendrait plus. Et voilà qu'avec quelques siècles d'avance sur Jean de La Fontaine, les satrapes jouent au renard pour s'attraper le roi de Babylone, versets 8 à 10. « Majesté, que vous êtes grand, montrez-le en devenant pendant 30 jours le dieu de votre peuple. » Toutes ces prières devront vous être adressées, vous serez au centre de la vie de vos sujets, cela affirmera votre autorité sur la nation. Cette loi facilitera la cohésion du royaume et mettra vos opposants dans la crainte de vous désobéir. Car ce sera soit vous priez vous pendant 30 jours, soit risquer la mort dans la fosse aux lions pour ceux qui désobéiraient à votre impérial décret. Sire, cette loi sert vos intérêts au plus haut point. Ah bon, vous croyez? Mais oui, sire, nous en sommes tous convaincus. Pauvre corbeau Darius, qui a si bien réfléchi jusque-là et qui, ce jour-là, manque de sagesse. Ce que les satrapes lui promettent, n'est-il pas trop beau pour être honnête? N'aurait-il pas dû prendre la vie de Daniel alors qu'il pensait bientôt le nommer Premier ministre? Au fait, où est Daniel? Son absence même devrait l'inquiéter. Mais voilà, la flatterie a obscurci sa lucidité et il se fait berner. Darius, flatté par ses satrapes, condamne alors à mort, sans le vouloir, son meilleur ministre. La flatterie est une arme redoutable. Elle endort la conscience et la vigilance. Et il n'y a pas que les rois qui s'y laissent prendre. Une flatterie bien placée peut pousser monsieur ou madame tout le monde à faire une grosse bêtise, même à 60 ans passés. Que de gens acceptent, par exemple, de s'endetter sous l'influence d'un vendeur flatteur qui leur fait miroiter la gloriole qu'ils retireront d'un achat qui dépasse pourtant largement leurs moyens. Imaginez-vous au volant de cette voiture, vos voisins en baveront de jalousie. Ils ne le disent pas comme ça, hein, mais c'est tout comme. Que de décisions imprudentes prises sous l'effet de la flatterie, dans l'espoir d'un gain facile, avant de se réveiller plus endetté que jamais. La morale de la fable est juste. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Voilà donc nos compléteurs qui ont mis au point un piège parfait. D'un côté,
Si Daniel continue de prier son Dieu, il en mourra. Et l'affaire sera réglée. Mais d'un autre côté, si Daniel obéit aux ordres du roi, eh ben, ses amis l'auront moralement et spirituellement brisé. Après plus de 65 ans de foi persévérante, il perdrait, Daniel, la force de son âme. La crainte des hommes remplacerait dans son cœur celle de Dieu. Il serait un homme vaincu. Les comploteurs sont sûrs que Daniel restera fidèle à son Dieu. Ils peuvent donc légalement réclamer sa tête et l'obtenir. On se rend compte ici qu'une cage au lion peut en cacher une autre. Les dents des ennemis de Daniel sont bien plus aiguisées que les dents des lions. Et leur soif de richesse et de pouvoir est bien plus grande que l'appétit des fauves qui sont captifs dans la fosse. Et de tels fauves aux dents longues existent encore de nos jours. On appelle ces hommes assoiffés de pouvoir et d'argent des requins aux dents longues, des dictateurs, impitoyables pour éliminer concurrents et gêneurs, qu'ils soient croyants ou non. Daniel apprend donc la nouvelle du décret royal à la sentence irrévocable. Comment va-t-il réagir ? Comment aurions-nous réagi ? Plusieurs possibilités. Avoir peur et partir. Disparaître chez des amis, au moins 30 jours, pour éviter le pire. Ou bien se dire, je dois garder ma place. Et pour cela, il me faut éviter de désobéir ouvertement au roi. Je peux continuer secrètement mes prières. Pourquoi pas ? Il n'y a rien de déshonorant, finalement, à se mettre à l'abri quand la tempête fait rage. Alors Daniel aurait pu aussi, en apprenant le complot, courir chez le roi, expliquer les conséquences pour lui de la loi que le roi avait promulguée. Il aurait pu implorer sa clémence. Le roi tenait peut-être suffisamment à lui pour le mettre à l'abri des lions. Mais Daniel ne cherche aucune des échappatoires que d'autres auraient peut-être envisagées. Daniel, c'est un homme public. Il est certainement entouré de nombreux serviteurs, d'assistants, comme le sont souvent les serviteurs de l'État. Ils n'ont pas vraiment de vie privée, ces gens-là. Il y a toujours autour d'eux des yeux et des oreilles qui traînent. Son habitude de prier trois fois par jour devant une fenêtre orientée vers Jérusalem, c'est une habitude connue de tous. Daniel cherche quotidiennement l'intimité de son Dieu pour trouver auprès de lui les forces, la sagesse dont il a besoin pour bien remplir sa mission. Il est donc à la merci d'une simple indiscrétion. S'il persévère à prier trois fois par jour, ce sera facile de le prendre en délit de désobéissance. Eh bien, advienne que pourra. Daniel décide de ne rien changer à sa façon de faire et il prie Dieu comme à son habitude, dit le texte. Ce qui avait été juste et bon jusque-là le reste. Même si les circonstances changent, je fais ce qui est juste et Dieu prendra soin des conséquences. Comment est-ce que Daniel était arrivé là, à ce type de courage, à ce type de détermination dans sa foi? Moi, je crois que l'explication, elle remonte à sa jeunesse, quand il a pris la ferme résolution de ne pas se souiller en prenant la nourriture et le vin de la table royale. Chapitre 1, verset 8. Ça remonte à sa jeunesse. Je crois que l'explication remonte là. Il a appris à dire non au mal et oui au bien depuis longtemps. Et chaque fois qu'il a fait ce bon choix, il s'est en quelque sorte affermi pour les choix suivants qui surviendrait sans nul doute. Et je crois que le phénomène inverse se produit aussi. Quand on hésite, et quand on renonce l'une ou l'autre fois, au choix de la fidélité envers Dieu d'abord, pour se plier aux circonstances défavorables ou contraignantes du moment, eh bien, on affaiblit un peu plus notre capacité à choisir la fidélité envers Dieu, quoi qu'il arrive. Quand d'autres tentations se présentent, le débat insidieux reprend de plus belle en nous. Pourquoi dire non aujourd'hui, quand en d'autres occasions pénibles, on a osé dire oui ? Une contradiction de plus ou de moins, ça ne changera pas grand-chose, pas vrai ? Ésaïe 26, verset 3. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » L'intégrité, la droiture, l'intégrité, la droiture. Je ne sais pas si vous connaissez ce chef-d'œuvre de la littérature méridionale écrit par Marcel Pagnol, la trilogie Marius, Fanny et César. Trois personnages marseillais hauts en couleur. Une réplique trouvée dans le premier livre fait réfléchir. C'est César, le père de Marius, qui dit à son fils, qui est, semble-t-il, tenté d'abuser de l'amour de Fanny pour lui, il lui dit, « Marius, l'honneur, c'est comme les allumettes. Ça ne sert qu'une seule fois. » Une remarque qui fait comprendre qu'après avoir renoncé à l'honneur et à la fidélité dans le couple, ou dans le travail, ou dans la marche avec Dieu, on perd beaucoup. On s'affaiblit. On s'engage sur une pente glissante qui ne mène à rien de bon. Il faut alors toute la grâce de Dieu pour se sortir d'un tel piège quand Dieu accorde la force du repentir pour remonter la pente et vivre en nouveauté de vie. Daniel tient le coup, mes amis. Il tient le coup. Il résiste. Il a passé 80 ans. C'est très paisiblement qu'il décide simplement de rester fidèle à son Dieu, quoi qu'il en coûte. On verra peut-être la suite de l'histoire un autre dimanche. Je sais qu'il n'y a pas de grand suspense concernant la suite des événements. On sait que Daniel sortira vivant de la fosse aux lions. Mais il y a encore des choses à dire dans ce récit. En attendant, et pour finir, je retiens l'exemple de Daniel dans cette situation. Le danger, il était là, immédiat, avec la perspective d'une mort violente, peu enviable, s'il restait ferme dans sa foi. Il n'avait aucune certitude de s'en sortir vivant. Personne n'en sortait vivant, d'habitude. Il avait certainement entendu parler de condamnés à mort, jetés dans la fosse aux lions, rapidement déchiquetés par les fauves. Mais la pensée de ce supplice ne l'a pas détourné du bon chemin. Mourir, il le faudrait bien un jour. Mais mourir fidèle, c'est ce qui comptait pour lui. Comme l'apôtre Paul l'exprimera plus tard, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course ». J'ai gardé la foi. Vous et moi, nous vivons dans un monde où la conscience des hommes et des femmes se révèle de plus en plus élastique, où la notion de bien et de mal dépend de plus en plus des circonstances, des questions d'intérêt ou de la recherche du plaisir personnel. Pour Daniel, face aux tenants de la morale élastique de son époque, c'était seul contre tous avec la fosse aux lions au bout du chemin. Pour beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde, la fidélité à l'Évangile peut devenir une question de vie ou de mort. Pensons à eux. Prions pour nos frères et sœurs persécutés. Et pour nous, même en Suisse, nous avons nos occasions de dire régulièrement non au mal et oui au bien. Quand cela risque de déranger des gens de notre entourage familial ou professionnel et de nous attirer des ennuis. À cause de la fidélité à l'Évangile, il y a parfois beaucoup à perdre, même ici. Tentés, nous le sommes, tous et toutes, comme notre Seigneur Jésus l'a été, sans commettre de péché. Alors, à l'heure où nous avons des choix importants à faire, que nous puissions dire comme Jésus, « Père,
non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que ta volonté soit faite. Que Dieu nous garde déterminés, tous et toutes, à suivre son chemin, même s'il est exigeant. Amen.
Nous voulons répondre à l'appel de Dieu en se servant de ce chant « Tu es le maître de tout mon être ». Je veux vivre libre de moi-même, je veux vivre tes joies et tes peines, tu es le maître, et je veux être celui que tu veux que je sois.
Tu es le maître de tout mon être, je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Tes peines, tu es le maître, et je veux être celui que tu veux que je sois.
Qu'a vécu Daniel dans la fosse aux lions? Au niveau de ses émotions, de son être intérieur, le texte ne le dit pas. Ce qu'il dit, c'est que le roi Darius a passé une très mauvaise nuit, mais que le matin, il l'a trouvé vivant et intact. Daniel était fidèle. Dieu l'a sauvé, il a échappé à la souffrance et à la mort. Jésus aussi était fidèle, mais il a souffert et il est mort. Dans Hébreux 11, nous trouvons la liste de croyants qui ont été fidèles, qui ont eu la foi et qui ont vécu des délivrances extraordinaires, comme Daniel, mais aussi des chrétiens qui étaient fidèles, qui avaient la foi et qui ont vécu des choses très difficiles et la mort. Nous avons chanté la grandeur de Dieu, sa puissance, sa capacité à délivrer de la guerre, à avoir la victoire. C'est vrai, mais je crois que ça n'empêche pas, au fond de nous, les émotions d'être là, d'avoir peur, de ne pas avoir envie de souffrir, de ne pas comprendre. Jésus l'a vécu dans son chemin vers la croix. Quand il était sur la croix, il a même dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui, qui avait toujours été fidèle à Dieu et qui avait établi une relation étroite avec lui, au moment sur la croix, il a vécu réellement, profondément, une rupture de relation, un sentiment de rupture que Dieu, son Père, l'avait abandonné. Comme nous nous sentons, nous aussi, parfois abandonnés quand nous souffrons, sans voir d'issue à notre souffrance. Je pense aussi à tous les chrétiens fidèles en Ukraine, sous les bombes. Je pense à tous les êtres humains de par le monde qui vivent dans des conflits, sous des régimes injustes et dans leur vie de tous les jours des choses injustes. Où est Dieu dans ces circonstances-là? Où était Dieu quand Jésus était sur la croix? Où est Dieu quand la souffrance de ses enfants n'en finit plus? Je pense qu'il y a dans ce cri de Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, le cri de tous ceux qui souffrent au point de ne plus être capables de croire à la présence de Dieu. Je crois qu'il peut arriver des moments où on ne sait plus. François Mauriac a dit, dans le doute, il faut choisir de rester fidèle. Jésus a souvent prié, s'est souvent adressé à son Père pour avoir de l'aide, pour savoir quel chemin il devait suivre, comme Daniel. Je crois que si Jésus a été jusqu'au bout, a accepté le rejet, la souffrance, la mort, la condamnation de sa personne, c'est parce qu'il nous aimait. Nous sommes tous présents dans ce portrait de Jésus. Et l'humanité tout entière est présente dans ce portrait de Jésus. Mais aussi parce qu'il a choisi de rester fidèle à la parole qu'il avait reçue à son baptême. Il savait qui il était dans le cœur de Dieu. Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Je crois que c'est avec cette pensée et dans la communion avec son Père que Jésus a tenu le gouvernail de sa vie. Jésus, avec cette pensée, a tout traversé, il a été jusqu'au bout, mais ça ne l'a pas empêché de souffrir, de pleurer, d'avoir peur et de se sentir abandonné. Pourtant, Dieu n'a pas abandonné Jésus, puisqu'il l'a ressuscité. Et cette résurrection, c'est pour nous une promesse. Promesse une vie, pour nous d'une vie que j'espère, pas seulement dans l'au-delà, mais déjà sur cette terre. D'une vie possible quand il y a des en Ukraine, je ne sais pas comment ils font, ou en Syrie ou ailleurs, je ne sais pas comment ils font. Mais c'est la promesse qu'une vie avec Dieu est possible. Et s'il devait arriver qu'un jour je ne sois plus capable de me souvenir de la parole que j'ai reçue de Dieu qui m'a aidé à me remettre en route, si j'arrive plus à me souvenir que Dieu a promis d'être présent et qu'il est le Tout-Puissant, j'ai l'espérance qu'il ne m'abandonnera pas. Ça, c'est une réalité qui est tout à fait vraie. Notre Dieu est notre Dieu de la vie.
Avant son arrestation et sa mort, Jésus prend un dernier repas avec ses disciples. Pendant qu'ils sont à table, Jésus prend du pain. Il dit la bénédiction, il le rompt et il le leur donna en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prend aussi la coupe. Il remercie Dieu et il la leur donne en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Ah non, non, t'as raison. Nous chantons.
Restons assis, chantons « Montre-moi l'aurore ».
Montre-moi
Abandonné, tu l'as été, Seigneur, pour que nous ne le soyons jamais. Merci pour ta grâce qui est tellement plus ample que ce qu'on peut imaginer. Merci d'avoir payé le prix et aujourd'hui de nous faire la grâce de nous en souvenir. Je te prie que ce pain, que ce vin et tout ce qu'il symbolise de ta personne viennent nous nourrir pour la suite de la route et nous rappeler la valeur infinie que nous avons pour toi. Gloire te soit rendue. Amen.
Nous avons préparé le repas. Nous avons rassemblé le pain et le vin. Nous avons dressé la table. Et dans notre prière, nous avons demandé à Jésus d'être là. C'est lui qui vous invite. Personne n'est obligé. On est libre. Mais chacun est le bienvenu. Nous allons passer dans les rangs. Servez-vous, car tout est prêt. Jésus a tout accompli. Il est avec vous. En prenant la scène, parlez-lui, racontez-lui vos peines et vos joies, ou bien faites silence et savourez sa présence. Écoutez-le. Faites-lui de la place, invitez-le chez vous. Et souvenez-vous de tous les moments où il était à vos côtés, où il vous a fait du bien, où vous avez reçu une parole, une idée qui vous a remis en route. Jésus est ressuscité. Exceptionnellement, parce qu'il n'y avait plus de petits verres, les verres rouges contiennent du vin et les verres transparents contiennent du jus de raisin. Je vous demanderai de vous servir et d'attendre. Nous prendrons la scène tous ensemble. Sentez la brûlure du vin. C'est la promesse que Jésus est un être de chair et de sang, qu'il est véritablement venu vivre avec nous notre vie dans la guerre et la paix. Nous sommes tous ses enfants. Nous chantons la fin du chant.
contre moi mon nom, gravé dans tes mains, transpercé pour me libérer. La mort est vaincue, la vie m'est donnée par ton amour parfait. Ô puissant,
en conclusion, j'aimerais vous lire les paroles du roi Darius quand il a trouvé, après avoir trouvé Daniel vivant et intact dans la fosse aux lions. Le Dieu de Daniel est le Dieu vivant, celui qui subsistera toujours. Son règne ne cessera jamais. Sa souveraineté durera jusqu'à la fin. Il sauve et il délivre, je ne sais pas toujours comment, mais je le crois. C'est lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. Amen.
Je vous invite à vous lever. Nous allons dire la bénédiction ensemble. Parole tirée de psaume 67. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Bon dimanche à tous, que le Seigneur vous accompagne.